Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vous écoutez 6ème Science. Quand on a le soleil dans les yeux, qu'est-ce qu'on fait? On met sa main devant la bouche. La phrase que je viens de prononcer n'aura aucun sens pour 3 auditeurs sur 4, j'en ai bien conscience. Les autres souffrent du syndrome de l'éternuement héliotropique ou réflexe photosternutatoire. Encore très peu étudié et donc incompris, ce phénomène provoque chez les personnes atteintes d'achou, comme l'ont renommé non sans humour les scientifiques anglophones, des éternuements lorsqu'elles sont exposées au soleil ou à une lumière un peu vive. Heureusement pour elles, déjà, les lunettes de soleil existent. Et puis, une étude britannique commence à livrer des éléments d'explication sur ce drôle de syndrome. Mes intros à rallonge ne doivent surtout pas lui faire de l'ombre, car celle qui mérite de prendre toute la lumière, c'est bien sûr Sylvie Riumio, journaliste santé à Sciences et Avenir. Bonjour Sylvie.
Bonjour Romain.
On sait tous à quoi ressemble un éternuement, évidemment, mais quels sont les rouages, les mécaniques qui nous amènent à projeter, souvent de façon fracassante, des postillons par million sur nos voisins?
Alors en fait, tout commence par une agression. Les poussières, les allergies, les pollens.
Des virus.
Des virus, bien sûr, que le nez détecte. Le nez, comment il le détecte? Au niveau de la muqueuse du nez, il y a des cellules sensorielles reliées aux nerfs qui sont là pour justement faire barrière. Une fois que l'ennemi a été repéré, les nerfs qui sont au niveau de la muqueuse du nez, le nerf s'appelle le trijumeau, un nerf très important au niveau du visage, et c'est lui qui envoie au cerveau un signal entraînant le blocage de tous les muscles respiratoires. Ça commence par le diaphragme, par les muscles plus hauts, par aussi les muscles du pharynx. Et là, il y a une pression d'air qui monte. Et on sent qu'on est évidemment très pris en pression dans cette augmentation de colonne d'air, et c'est là où il faut expulser. C'est donc un réflexe naturel pour nous protéger.
C'est pour nous protéger parce qu'en fait, on va capturer dans le nez, c'est les poils qui capturent ?
Ils interviennent également, tout à fait.
Et pour empêcher justement ces agresseurs de descendre plus bas pour attaquer
voilà,
les poumons.
Voilà, pour les bloquer très haut. Donc il y a tout ce mécanisme qui se met en place en quelques nanosecondes parce que tout se fait très vite. Et il s'agit effectivement d'expulser. Alors maintenant, on peut expulser en une fois et se débarrasser de l'ennemi. Et les éternuements en salve, ça survient en fait pour être plus efficace, pour être sûr qu'on a vraiment réussi à se débarrasser de cette agression extérieure.
Ce qui est marrant, c'est qu'on n'est pas les seuls à éternuer.
Tout à fait.
C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que les éternuements de petits chiens ou de petits chats, c'est quand même ultra mignon et ça montre qu'entre guillemets, le règne animal est concerné plus largement par ce phénomène.
Tous ceux qui sont dotés de poumons. Pour les autres, j'imagine que les poissons, avec leurs branchies, doivent avoir des phénomènes aussi pour expulser toutes les saletés qui doivent aussi les gêner au niveau de leur physiologie respiratoire. Mais pour tous les autres, effectivement, il y a ces phénomènes d'éternuement qui existent dans la nature.
Alors, se débarrasser des corps étrangers inopportuns avant qu'ils n'atteignent les poumons, c'est un peu, tu l'as dit, la première utilité de l'éternuement. Mais ce n'est pas la seule, d'après un des experts que tu as interviewé. Je veux bien qu'on explore ce sujet.
Alors lui, effectivement, c'est des travaux qui remontent déjà une petite dizaine d'années. C'est des hypothèses parce que c'est très difficile ce genre de travaux, hein, évidemment, pour les prouver de manière certaine. Mais ça pourrait redynamiser toute la muqueuse nasale. Et là encore, tout le rôle des cils et du mucus nasal qui sont là pour filtrer et piéger toutes les saletés qui circulent dans l'air.
Tu assimiles ça en fait à un redémarrage d'ordinateur.
Exactement, à une espèce de redynamisation de la machine. Pareil, avec encore un phénomène de répétition pour être sûr que les choses se remettent bien en place et nous protègent vis-à-vis de l'environnement extérieur. Parce qu'en fait, on est toujours dans une protection et dans un mécanisme de défense. Mmh. Et c'est là où ce réflexe de l'éternuement trouve sa place.
Autre enseignement de ton dossier, c'est que tu déconseilles, et les experts que tu interviews également, de se retenir d'éternuer. Si jamais vous avez envie d'éternuer, éternuez.
Surtout, laissez-vous aller. Effectivement, un cas clinique qui a été rapporté dans une étude il y a maintenant quelques années, un Britannique d'une trentaine d'années qui, en voulant se retenir, a réussi, si je puis dire, c'était totalement totalement involontaire évidemment de sa part, il a perforé son pharynx et il s'est retrouvé avec une hémorragie, un cou très gonflé, très douloureux, qui a nécessité son transfert aux urgences. Il y a d'autres cas qui ont été décrits de micro-hémorragie au niveau du cerveau. On peut imaginer évidemment tout ce travail de cette pression qui est extrêmement forte au niveau des vaisseaux de la tête. Et s'il y a une mini-fragilité de ces vaisseaux, ça peut les faire se rompre. Il y a même des études qui évoquent un risque d'Alzheimer à cause d'une fragilité vasculaire qui serait ainsi mise à mal. Imaginons un allergique, quelqu'un qui éternuerait beaucoup souvent, et qui aurait tendance à se freiner et à se retenir, ça pourrait créer une fragilité au niveau des vaisseaux. Donc, effectivement, le conseil est surtout laissez-vous aller, ne vous retenez pas.
Sur une note un peu insolite, il y a une Américaine qui, elle, n'a pas du tout pu se retenir puisqu'elle a éternué 12 000 fois en un mois. Je crois que ça fait... C'est toi qui as fait le calcul, c'est pas moi.
Voilà.
Un éternuement à peu près toutes les 20 minutes. Comment c'est possible déjà de survivre à ça, et comment ça se fait que son corps ait autant besoin d'évacuer?
Ce cas, effectivement, a assez étonné tous les spécialistes. C'était en 2015, de mémoire, et ça a duré effectivement plus d'un mois. Il n'y a pas d'explication réelle qui a été retenue. J'ai essayé de trouver si un suivi avait été fait de cette jeune fille, donc 12 ans à l'époque. La crise d'éternuement avait commencé de mémoire pendant un cours de clarinette. Stress majeur, sans doute. L'explication est restée mystérieuse et on espère pour elle que ça s'est arrêté depuis.
Oui, il y avait le nerf trijumeau qui était un peu excité.
Toujours ce fameux nerf trijumeau qui est absolument essentiel dans le déclenchement, oui.
On en vient à un éternuement un peu spécifique qui fait l'objet de cet épisode, c'est l'éternuement héliotropique. Comme son nom l'indique, Hélios, c'est le soleil, hein, donc là, pas de poussière ou de virus caché dans les naseaux. Alors moi, je suis pas concerné par ce syndrome, mais chez certaines personnes, la lumière, qu'elle soit naturelle ou non, suffit à provoquer un ou plusieurs éternuements. La vraie question là, c'est est-ce qu'on parle d'un phénomène rarissime ou plutôt quelque chose d'assez présent au sein de la population mondiale ou française ?
Eh bien écoute, Romain, moi j'en suis atteinte.
Ah bon ?
Comme une personne sur quatre sur la planète. C'est à peu près les chiffres qui circulent. C'était quelque chose qui était effectivement assez étrange, qui a été observé au début dans les années 50. Un ophtalmo qui s'est aperçu en utilisant ses appareils d'optique pour examiner la rétine de ses patients, qui nécessitent beaucoup de lumière, que pendant les examens, les patients se mettaient à éternuer. Et ça a été le début de travaux. En fait, il y en a eu très peu, puisqu'aujourd'hui, donc de 1950 à nos jours, il y a à peine une centaine de publications qu'on trouve sur le sujet et qui ont retrouvé cette association où là, il n'y a effectivement ni poussière, ni allergie, mais uniquement un facteur lumineux.
Les scientifiques ont quand même trouvé le temps de lui coller un nom ou un acronyme assez rigolo.
Les anglo-saxons,
c'est Hachou.
Voilà, ont de l'humour. C'est une onomatopée qui reprend certains, donc
le descriptif
du phénomène, tout
alors,
à fait.
Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Alors toi, si en plus t'es concerné, tu vas pouvoir nous donner ton exemple. À chaque fois que t'es exposé à une lumière un peu vive, tu te mets à éternuer sans arrêt.
Ce n'est pas aussi systématique, mais j'ai remarqué qu'il y avait une réelle sensibilité et lien.
C'est immédiat ou il y a un décalage entre guillemets entre l'exposition et l'éternuement ?
C'est ça aussi, c'est très variable, quelques secondes. Et d'ailleurs, il y a un Anglais que j'ai contacté pour ce papier qui lui-même est aussi atteint d'Hachou et qui a voulu en savoir plus.
Justement, en parlant de ce Manuel Speechman, c'est ça ?
C'est ça.
Il est en train de mener une étude, parce que c'est une étude qui est en cours, elle n'est pas terminée. En quoi consiste-t-elle ? Il est allé voir uniquement des personnes qui souffrent d'Hachou.
Pour l'instant, il les a recrutées par voie d'annonce, les réseaux sociaux, la presse. Lui, c'est un universitaire, un psychologue qui est d'origine allemande, mais qui travaillait à Oxford. Et donc, son étude a été montée en Grande-Bretagne. Et il a réussi à solliciter 300 volontaires qui lui ont répondu. Donc, il y a toute une série de questionnaires qu'il leur a envoyés pour savoir justement quel était le délai entre l'exposition lumineuse, l'intensité de l'éternuement, le moment dans la journée. Donc, tout ça est en cours d'analyse. Il espère publier, il espère essayer de comprendre le signal, de comprendre vraiment comment tout ça peut se mettre en place, ce qui est assez difficile évidemment sur le plan de l'étude. Il y a quand même déjà des pistes, puisque sur le plan anatomique, on se dit que le fameux nerf trijumeau dont je parlais tout à l'heure, il se trouve qu'il est aussi très près d'un autre nerf qui s'appelle le nerf ophtalmique. Et c'est lui qui reçoit l'intensité lumineuse. Et donc, il semble que l'un des mécanismes qui pourrait expliquer ce réflexe photosternutatoire, comme l'appellent savamment les médecins, serait en fait une espèce de court-circuit entre les fibres du trijumeau et celles du nerf ophtalmique. et les deux s'auto-entretiendraient et s'auto-stimuleraient, ce qui provoquerait l'irritation et l'éternuement.
Donc en gros, c'est ça, c'est les deux fils qui se marchent un peu dessus et qui provoquent des courts-circuits.
Voilà.
Ce phénomène, il est dangereux pour les personnes qui en souffrent. Enfin, j'imagine que des chauffeurs routiers qui roulent de nuit face à des phares très puissants, enfin, si jamais ils se mettent à éternuer sans arrêt, c'est...
Il y a des études qui ont été réalisées chez des pilotes de chasse. Donc c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Parce qu'évidemment, éternuer sans fermer les yeux, c'est difficile aussi, puisque tous les muscles se mettent en marche et il y a ce réflexe aussi, mais même si c'est très bref, de fermeture des yeux qui survient. Alors maintenant, pour le prévenir, on a les lunettes de soleil, parce qu'en fait, ce qui semble surtout agir comme signal déclencheur, c'est le passage de l'ombre à la lumière.
C'est
la différence d'intensité de passer de l'obscurité à quelque chose, alors lumière artificielle ou lumière naturelle d'ailleurs, puisque le chercheur en question, Manuel Spitschan, a prévu dans ses travaux à venir de tester différents spectres d'ondes lumineuses pour voir si ça pourrait également agir.
Donc en gros, si jamais de la lumière bleue ou de la lumière rouge, ça diffère au niveau des effets.
C'est ce qu'il voudrait savoir. Ça fera partie de ses travaux futurs.
Donc pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, entre guillemets, pour les personnes qui en souffrent que les lunettes de soleil.
Exactement. Et puis, ce n'est pas non plus très gênant
en soi. Surtout si on habite à Paris où le soleil est assez rare.
Exactement.
Et est-ce qu'il y a d'autres études aujourd'hui qui sont menées autour de l'éternuement ?
Alors, il y a des études plus fondamentales. Une étude américaine assez récente qui, elle, est arrivée à isoler les neurones, alors chez la souris, je précise, de l'éternuement. Ils ont vraiment réussi à identifier les zones au niveau du tronc cérébral, dont on sait que c'est une zone importante dans la respiration. À ce niveau-là, ils ont trouvé des neurones très particuliers qui étaient sensibles à une substance et ils sont même arrivés, il y a des vidéos qui circulent sur le net avec leurs travaux, où on voit les souris au départ stimulé par du piment, puisque c'est un allergène puissant qui, évidemment, au même titre que le poivre, fait éternuer. Et cette équipe, elle, est parvenue à bloquer les éternuements, démontrant ainsi qu'ils avaient très précisément isolé la zone sensible aux récepteurs d'une substance qui s'appelle la neuromédine, qu'ils ont réussi à isoler.
J'aimerais bien qu'on revienne finalement dans le temps, puisque là, on a parlé des scientifiques qui étudient en ce moment l'éternuement ou l'éternuement héliotropique, plus spécifiquement. Il s'avère qu'un certain Aristote s'était lui aussi penché sur le sujet.
Il semble effectivement dans ses écrits qu'il semblait lui-même concerné par ce trouble et il l'a effectivement très bien précisé déjà et identifié dans ses écrits, tout à fait.
Et en conclusion de cet épisode, Sylvie, est-ce que tu as éventuellement un conseil pour les personnes qui souffrent d'être chou comme toi ou tout simplement les gens qui éternuent ?
Alors, premier conseil, ne pas se retenir. Et second conseil, éternuer dans son coude. Et pourquoi son coude et pas les mains ? Parce que les mains, on les nettoie pas systématiquement. On va pas aller se laver les mains après chaque éternuement. Et c'est bien plus hygiénique ainsi.
Merci Sylvie. Achou, bonsoir, comme diraient les guignols de l'info. En guise de conclusion, dans l'hypothèse où cette référence plus toute fraîche n'a pas ruiné cet épisode et que vous avez malgré tout passé un bon moment à nous écouter, dites-le nous. Et la meilleure façon de l'exprimer, ce n'est pas avec des fleurs, pour une fois, mais en postillonnant des millions d'étoiles ainsi qu'un chouette commentaire, de préférence, sur la page Apple Podcast ou Spotify de 6ème Science. C'est grâce à ça que nous pouvons nous faire connaître de nouveaux auditeurs. En parlant de ça, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous connaît d'ailleurs depuis suffisamment longtemps pour savoir que vous avez le nez creux, et si l'envie de nous faire des remarques et des suggestions vous chatouille le museau, ne vous retenez pas. On a une boîte mail prête à accueillir tous vos petits mots. Vous la trouverez en description de cet épisode, mais je la répète toujours, audio@20minutes.fr. Ça prend parfois quelques semaines, mais je réponds. À dans 2 semaines, et n'oubliez pas, comme lorsque vous éternuez, on envoie de la science dans tous les sens.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.